D'accord.
Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, on se retrouve en direct dans le studio de Ferney. Il neige, c'est l'hiver. Tout se recouvre de blanc, ça va glisser très très fort. Nous ne savons pas quand nous allons pouvoir quitter les studios, mais pour l'instant, installons-nous ensemble pour passer cette heure et demie. À 18h30, peut-être des nouvelles. Et à 19h, les coups de cœur de Marjolaine sur les diverses activités culturelles dans la région genevoise et française voisine. Aujourd'hui, dans du remue-ménage, quelques nouvelles sur l'actualité. L'actualité surtout de manifestations qui, à leur façon chacune, prennent parti pour une situation, une cause, un problème de société. En direct avec nous tout de suite, Suzanne Lersch qui vient de nous parler de ce qui va se passer ce week-end le samedi 28 novembre dès 18h, un ouragan de solidarité, ouragan en référence évidemment aux dommages extrêmement graves causés par l'ouragan Mitch en Amérique centrale. Suzanne, bienvenue dans Remue Ménage. Alors, Suzanne, vous avez décidé à toute une équipe de gens d'organiser cette soirée de solidarité après le passage de l'ouragan Mitch. Pourquoi cette décision de faire une soirée de solidarité tout à fait indépendante de ce qui s'est déjà fait? Parce que, bien sûr, je suppose que nos auditrices et auditeurs ont entendu parler de diverses tentatives de réunir de l'argent en solidarité avec les habitants des différents pays touchés par l'ouragan Mitch, que ce soit le Nicaragua, l'Honduras, les deux principaux pays touchés. Alors pourquoi ce choix, vous, et qui s'est réuni dans cette option-là?
Donc c'est une initiative de diverses associations, dont l'association de solidarité avec le Nicaragua et le Salvador, dont je fais partie. Et en fait, c'est une idée qui a surgi, je pense, pas seulement par rapport à la nécessité de réunir des fonds et de les faire parvenir à des partenaires que nous connaissons, mais c'est aussi de créer un espace de débat et de réflexion. Je pense que là, une partie très importante de cette soirée va être la table ronde qui va ouvrir la soirée où on veut instaurer un débat sur le thème, c'est ainsi que c'est intitulé sur le tract, néolibéralisme, catastrophe et solidarité. Comme vous voyez, c'est tout un programme et je pense que ça va être un débat très intéressant parce que c'est un thème très complexe qui, si vous voulez, dépasse un petit peu le discours forcément plus immédiat, plus émotionnel, qui a été diffusé dans les médias par la chaîne du bonheur, bon, dont c'est le rôle. Nous ne contestons pas du tout cette action de la chaîne du bonheur. Ça nous a paru excellent qu'il y ait une mobilisation aussi forte autour de cet ouragan. Ça montre qu'il y a aussi une sensibilité du public, une sensibilité populaire par rapport à l'Amérique centrale, ce qui nous réjouit fort, mais on pense que ce serait bien de créer un moment de rencontre, disons, autour d'une réflexion peut-être un peu plus critique par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe.
Parce qu'en fait, effectivement, vous partez du point de vue que la catastrophe naturelle, c'est une chose, mais qu'il y a beaucoup de choses pas naturelles du tout dans les effets de cette catastrophe.
Voilà, donc il se trouve qu'actuellement, la plupart des catastrophes dites naturelles, en tout cas un grand nombre d'entre elles, ont des causes bien humaines. Et tout ce qui touche effectivement aux phénomènes, notamment des inondations et des glissements de terrain, disons, ce sont des phénomènes naturels qui peuvent causer beaucoup de victimes ou très peu, suivant le pays dans lequel on se trouve. Par exemple, au Nicaragua, qui habite sur des terres qui sont dans les zones inondables ou sur des flancs extrêmement instables de montagne, ce sont les paysans très pauvres qui ont perdu leurs terres et qui sont venus à la ville ou au village, qui sont propriétaires de rien et qui squattent sur des terrains inaptes à l'habitation, qui l'ont toujours été depuis des siècles. Jamais personne s'était installé de façon, disons, stable sur justement ces bords de rivière ou sur ces flancs de volcans. Et la crise économique, tout le phénomène de la paupérisation des paysans fait que toutes ces terres-là sont petit à petit occupées. Et ce sont ces populations-là, évidemment, qui reçoivent la catastrophe de plein fouet.
Et puis peut-être aussi, on peut pas, il y a peut-être aussi d'autres phénomènes qui seraient bon qu'on comprenne. Bon, là, l'histoire des maisons aussi, c'est évident qu'un tel ouragan, s'il avait lieu dans un pays riche comme le nôtre, une maison, elle n'est pas faite de paille, elle ne s'envole pas au premier ouragan, alors que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se construire une maison plus en dur dans ces pays-là.
Ouais, il y a aussi ça. Donc, il faut savoir qu'en Amérique centrale, les principaux dégâts ont été causés par l'eau et pas par le vent. Donc, quand c'est un ouragan venteux, il touche tout le monde à peu près de la même manière. Bon, après, il y a toujours la différence entre ceux qui ont une maison très solide et puis ceux qui ont une maison moins bien construite. Tandis que les phénomènes d'inondation, ça touche vraiment des portions du territoire bien précises. Pas tout le monde est affecté par les inondations. Par contre, un autre phénomène très important qu'il y a en Amérique centrale, c'est la perte des cultures. Donc, il y a tellement plu, il y a eu une telle abondance d'eau que la terre est détrempée. Et comme vous le savez, dans les tropiques, la couche de terre végétale est mince. Donc, il y a une érosion qui s'est produite aussi à cause de ces pluies. Donc, pratiquement toute la récolte qui devait avoir lieu ces semaines est perdue. Toute la récolte du café, notamment au Nicaragua, c'est complètement trempé, c'est inondé, c'est pourri. Et dans de larges portions du territoire, il ne sera même pas possible de semer parce que le sol est trop détrempé. Donc il va y avoir un problème de survie alimentaire extrêmement grave dans les prochains mois. Donc c'est pour ça que parmi les projets que nous voulons souhaiter, la question de la reprise agricole et des semences partout là où c'est possible est un point très important.
Nous avons vu quelques sujets à la télévision, par exemple, sur aussi le fait que dans les grandes plantations qui étaient la mainmise de certaines entreprises américaines, comme Chiquita et autres, ont licencié tout leur personnel. Là aussi, c'est une dénonciation contre le néolibéralisme, par exemple, sur lequel vous aimeriez mettre le doigt.
Absolument. Donc, nous sommes entièrement associés à cette opération de dénonciation de la façon d'agir des multinationales de la banane. Pour le moment, les informations concernent surtout le Honduras. Nous n'avons pas d'informations sur ce qui s'est vraiment passé dans les plantations au Nicaragua. Mais c'est évident que, disons, les ouvriers agricoles, comme les petits paysans, sont extrêmement affectés par cet ouragan. Et le boycott des bananes Chiquita et Dole, qui a été lancé notamment par les magasins du monde, ici en Suisse romande, et beaucoup d'autres organisations au niveau européen. Nous pensons qu'il faut absolument le soutenir et le pratiquer.
Alors, Suzanne, tu as vécu souvent en plusieurs étapes au Nicaragua. Tu as travaillé en relation avec des organisations, des gens sur le terrain, puisque à un moment donné, le peuple nicaraguayen était très organisé dans les villages, etc. Cette structure, elle existe toujours et elle va pouvoir être entre autres un relais, par exemple, de l'argent qui risque d'être réuni. Comment ça va se passer? Ou est-ce que tout ça a été démantelé, par exemple, avec les nouvelles personnes au pouvoir en ce moment en Nicaragua?
Donc, bon, au Nicaragua, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues par rapport à l'époque sandiniste. Moi-même, j'ai vécu un ouragan en 88 sous le gouvernement sandiniste, bon, qui était moins violent, il faut le reconnaître, comme phénomène climatique que celui-là, mais qui était quand même un véritable ouragan avec pas mal de destruction et il y avait eu un plan de prévention, de défense civile qui avait été répandu dans tout le pays. Toutes les personnes qui étaient dans les zones inondables avaient pu se réfugier à temps dans des endroits qui avaient été aménagés à cet effet. Et il y avait eu 2 morts, c'est ce qu'on dit. Et cette fois-ci, le gouvernement n'a pris absolument aucune mesure préventive. Il n'a fait que minimiser la portée de l'événement. Donc les personnes qui se sont organisées, c'était à titre individuel ou bien au niveau d'une communauté ou dans les endroits où il y a encore une cohésion sociale forte. Mais c'est clair que face à un phénomène d'une telle ampleur, l'initiative de la société civile ou des associations ou des ONG, elle ne peut pas répondre entièrement à la demande. Il faut un État qui existe un tout petit peu et qui fasse face à la situation. Or, l'État, au cours des 10 dernières années, a été complètement démantelé. Et en plus, il n'y avait pas la volonté politique, en fait, de faire quelque chose, ni avant, ni pendant, ni après. Donc il y a vraiment de graves problèmes par rapport à la manière d'acheminer l'aide, à la manière dont tout ceci va...
Voire de la refuser, parce qu'il semblerait que même le gouvernement nicaraguayen ait refusé de l'aide.
Il a refusé de l'aide au début. Je crois que maintenant, il a un petit peu revisé ses positions. Et maintenant, il y a des tentatives, justement, de collaboration, de coordination pour faire que cette aide arrive là où elle doit arriver. Et évidemment, le gouvernement, même si on n'a pas très envie de collaborer avec lui, on ne peut pas non plus le tenir à l'écart. Il y a eu 220 ponts détruits. Reconstruire les ponts, c'est la tâche des gouvernements. Ce n'est pas la tâche des associations de paysans, des groupes de femmes et des groupes de quartier. Je veux dire, il y a des tâches que l'État doit entreprendre. Donc, je pense que c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette fête. C'est qu'il y ait une pression internationale, une observation, si on veut, très attentive de l'aide, de comment ça se passe. Et de favoriser toutes les initiatives, même si elles sont très petites, très modestes, comme les nôtres. Parce que c'est une manière aussi d'exercer une fonction d'observation et de contrôle sur ce qui se passe sur le terrain. Quand on est soi-même impliqué dans le processus, on est beaucoup plus attentif à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est très important, nous pensons qu'un grand nombre de personnes aillent sur place, aillent des journalistes, à tout simplement être présent, être témoin de la manière dont tout le processus se déroule. Et puis, tous les liens qui ont été créés autour des 20 dernières années entre la société suisse et un grand nombre de gens, de groupes au Nicaragua, c'est très important de réactiver ces liens pour canaliser de l'aide la plus directe possible.
Ça, on pourrait quand même le rappeler. Effectivement, il y a des liens forts qui unissent le Nicaragua à la Suisse parce que de nombreuses personnes, au moment de la prise du pouvoir de révolutionnaire avec les sandinistes, il y a eu un élan de collaboration entre les deux pays. Il y a beaucoup de gens qui sont allés participer à des brigades. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, d'ailleurs.
Oui, ça s'appelait des brigades. Et puis, il y a aussi eu des jumelages. Par exemple, il y a un jumelage entre Delémont et La Trinidad, qui est une petite ville du Nicaragua. Eh bien, je sais que les gens de Delémont ont déjà pris contact avec les gens de la municipalité de La Trinidad, qui réunissent des fonds pour La Trinidad. Et ça nous paraît une manière tout à fait intelligente d'agir, parce que ça... Et en plus, ça contribue à faire un flux d'informations dans les deux sens, qui est tout à fait continu, qui passe par des projets tout à fait concrets et par des gens qui se connaissent aussi déjà souvent de longue date. Donc tout ceci devrait permettre qu'il y ait moins de gaspillage et je pense que c'est une manière d'exercer une pression sur ce gouvernement qui jusqu'à maintenant ne s'est pas montré beaucoup à la hauteur.
Ça m'a frappé quand même qu'apparemment, dans la version officielle de l'aide humanitaire, tu parlais de la chaîne du bonheur, il y avait quand même cette présence, justement, peut-être plus que d'autres fois, de l'idée qu'il fallait prendre comme relais les gens qui travaillaient sur place. Est-ce que ça te semble être effectivement une option un peu différente de cette aide humanitaire? On fait des grandes réunions de fric, des millions, là, 15 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis, les gens ne savent pas très bien où ça atterrit, mais pour une fois, apparemment, c'est un petit peu plus clair qu'on va travailler avec les gens qui sont sur place. Et entre autres, vous avez été contacté, non, je crois?
Oui, donc nous avons pris contact avec la chaîne du Bonheur et nous avons déposé aujourd'hui même un projet pour environ 200 000 francs pour soutenir 5 communautés paysannes qui travaillent donc avec une petite ONG que nous connaissons bien et avec laquelle nous avons des liens depuis aussi très très longtemps. Et je pense que même le gouvernement suisse en fait favorise cette manière de faire parce qu'il y a eu des problèmes, disons, au sein de la coopération suisse au Nicaragua, avec la manière de faire du gouvernement du Nicaragua, qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les contrats, qui déplace du personnel pour mettre des gens, disons, qui n'ont rien à faire là dans les projets, pour des questions de copinage, etc., de clientélisme. Donc, je crois que même au niveau officiel...
Il y avait eu un coup de force, si je me souviens.
Oui, il y avait eu un coup de force. Il y a eu un incident diplomatique l'année dernière. Et je pense que le gouvernement suisse, il est extrêmement méfiant et prudent par rapport aux structures du gouvernement au Nicaragua. Donc, il encourage vivement, en fait, les ONG, les associations à activer leur propre réseau. Et aimerait, je pense, faire passer un maximum d'aide par ces canaux, et pas seulement par les canaux officiels et gouvernementaux.
Dans les faits, Suzanne, tu avais toi-même concocté tout un projet, non pas lié à Mitch, parce que tu devais partir pour continuer un travail en architecture que tu avais, urbanisme que tu avais déjà imaginé. Bon, en l'occurrence, je crois que tu vas quand même partir, et peut-être encore plus, si je puis dire. Il y a des urgences, des choses qui... Parce que le travail paraît tellement immense. Quelles semblent être les priorités, par exemple, dans le projet auquel, que tu espérais mettre sur pied? Quelles vont être les priorités?
Donc, le projet que j'ai mis sur pied avec un groupe de collègues nicaraguayennes, en l'occurrence, c'est des femmes, c'est un programme d'appui aux municipalités rurales au Nicaragua, justement par rapport à leurs problèmes d'aménagement du territoire. Donc l'idée, c'est une idée assez simple, c'est de donner des appuis à différentes municipalités et de provoquer, d'organiser aussi chaque année des moments de rencontre, des moments d'échange où on peut, disons, échanger des expériences et faire de la formation sur ce thème. Alors, c'est des choses extrêmement concrètes. Il faut construire un nouveau quartier. Où est-ce qu'on va le mettre? À l'est, à l'ouest, au bord de la rivière, sur une colline? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la déforestation qui a tendance à se créer autour des villages parce que les gens vont chercher du combustible pour la cuisine? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle école? Où est-ce qu'on la met? Et si on crée un petit abattoir, où est-ce qu'on le met pour pas créer une cause de pollution qui va après salir les eaux de tout le village? Enfin, c'est toute une série de problèmes très très concrets. Et c'est un travail que nous avons fait avec ces collègues aussi, enfin quand je vivais au Nicaragua et que mes collègues ont continué de faire. Donc nous aimerions mettre sur pied un programme sur 2-3 ans avec un plan d'aide à toute une série de municipalités. Donc nous pensons que ce programme est plus que jamais d'actualité parce qu'un grand nombre de ces municipalités ont eu des graves inondations. Et par exemple, doivent se poser le problème quand on reconstruit les maisons, est-ce qu'on les reconstruit sur le même terrain où elles ont été détruites? Et si on les met ailleurs, où est-ce qu'on trouve des terrains aptes à faire des nouveaux quartiers tout en gardant la préoccupation de ne pas faire des villes qui sont, je ne sais pas, des immenses saucissons le long d'une route où l'école se trouverait très très éloignée, ou bien de mettre des gens dans une situation extrêmement mal commode par rapport au commerce, par rapport aux services, par rapport au chemin d'accès.
Et la propriété de la terre, ça, la question se pose?
Alors la question de la propriété de la terre, évidemment, va se poser aussi immédiatement. Donc c'est aussi, évidemment, pouvoir négocier S'il faut racheter des nouveaux terrains, soutenir les municipalités peut-être qui veulent faire ces démarches, les aider peut-être à trouver un financement pour acheter éventuellement les terrains. Et puis, dans la dernière étape, porter beaucoup d'attention justement aux titres de propriété pour que les personnes qui sont relogées dans ces nouveaux quartiers se sentent vraiment propriétaires du terrain qui va leur être attribué. Et en particulier les femmes, disons. Moi, je pense qu'il faut mettre tous les titres de propriété au nom des femmes. C'est pour elles une très bonne manière de se prévenir de la violence masculine qui est malheureusement extrêmement violente au Nicaragua. Et quand une femme est propriétaire de son lopin, donc de la maison sur laquelle elle se trouve, ça la met dans une position de force beaucoup plus grande. C'est elle qui peut mettre le mari à la porte, pour dire les choses clairement, et pas elle qui se retrouve à la rue quand la situation devient insupportable. C'est une expérience qui avait été faite lors du précédent ouragan par pas mal de femmes. Et je crois que le mot d'ordre est déjà en train de circuler au Nicaragua, que toutes les femmes qui ont la possibilité, grâce à l'ouragan, finalement, de devenir propriétaires, qu'elles saisissent cette possibilité.
Bah, dis donc, un ouragan qui est source d'apprentissage, pareil.
Alors, je pense que l'ouragan peut être une grande source d'apprentissage, oui, tout à fait. Ça peut être, bon, évidemment, pas pour tout le monde, pas pour tous les gens qui ont perdu des membres de leur famille, il y a des gens qui... Mais ça peut être aussi une manière de débloquer des situations, peut-être pas pour la majorité, mais je pense pour un certain nombre de personnes ou de groupes, oui, tout à fait, parce qu'il y a une nouvelle situation, et puis ça peut, s'il y a une organisation collective assez forte et qu'on réfléchit à quelques principes, ça peut aider à faire un pas en avant, bizarrement.
Est-ce que dans le cadre soit de la table ronde, soit peut-être, je ne sais pas, dans d'autres espaces que forcément la fête de samedi, les gens que cela intéresse peuvent consulter ou discuter avec les organismes qui formulent des projets, ne serait-ce que pour s'intéresser comment les choses vont se faire? Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça.
Voilà, donc il y a donc cette petite table ronde qui est organisée samedi à 19h au Palladium, jusqu'à 20h30 à peu près.
Qui réunira quel genre de gens?
Donc, il y aura une personne qui a vécu l'ouragan, une femme de Genève qui était pendant l'ouragan à Matagalpa, qui va raconter comment elle a vécu toute la crise. Il y aura un journaliste qui connaît très très bien l'Amérique latine, qui va nous donner une analyse peut-être plus politique et critique de la situation. Il y aura des représentants de l'association Suisse Honduras, parce que nous ne devons pas oublier les Honduriens, même si nous avons moins de liens avec le Honduras pour des raisons historiques. Il y a une communauté hondurienne assez importante en Suisse, et le Honduras a été encore plus frappé que le Nicaragua. Là-bas, il y a vraiment un nombre de morts et de disparus qui est encore plus important. Et il y aura aussi un professeur de l'université qui va faire une petite réflexion sur le lien entre territoire, climat, catastrophe, parce que au sein de l'université, principalement l'Institut du développement, l'Institut d'architecture et puis peut-être d'autres facultés, il y a un intérêt par rapport à cet ouragan de promouvoir éventuellement des projets justement dans le cadre de la reconstruction. Et il y a déjà eu une réunion à l'Institut du développement il y a une quinzaine de jours, qui était très intéressante. Donc l'université est aussi partie prenante de cette soirée au Palladium. Et il sera aussi organisé, dans le cadre de l'Institut d'architecture, un colloque le samedi 18 décembre à 16h30. Je le dis déjà, mais je ne connais pas le lieu, où justement différentes facultés vont s'exprimer sur ce thème dans l'idée de faire aussi une action, un projet concret qui pourrait servir aussi dans le cadre de l'enseignement, parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre dans ces situations-là.
Alors, peut-être pour conclure, disons que la table ronde, c'est une chose, mais il y a bien sûr aussi l'aspect festif qui suivra cette table ronde. Donc, rappelons-le, qui commence à 19h et qui se prolongera jusqu'à 20h30. Ou 21h30, tu as dit 21h30. 20h30.
20h30, oui.
Après, alors, on retrouve de la musique avec Michel Buller, je crois qu'il n'y a pas besoin de le présenter, mais qui est Javier Alonso.
Javier Alonso, je crois que c'est un chanteur engagé latino-américain, je ne l'ai encore jamais entendu, mais je crois que ça va être intéressant parce que les deux chanteurs vont alterner dans un tour de chant. Il ne faut pas oublier le repas latino, il y a donc à Genève toute une communauté, surtout de femmes nicaraguayennes et honduriennes, qui prépare un immense repas typique de l'Amérique centrale avec toutes sortes de spécialités. Et beaucoup d'autres représentants de la communauté latino-américaine et de la communauté espagnole aussi. Donc je pense que le moment du repas sera aussi un moment important. Et puis donc après, il y aura Michel Buller et deux groupes, je crois, de salsa et d'autres petits groupes qui ne sont pas inscrits sur la feuille mais qui se sont annoncés et qui joueront comme Ciero et Besson ou d'autres. Toutes ces personnes...
Des belles surprises, quoi.
Voilà, et toutes ces personnes sont donc entièrement volontaires. La salle est offerte par la ville de Genève, l'affiche est offerte par Aloïs. Donc il y a un bel élan, disons, de solidarité autour de cette fête et de cet événement.
Et il faut votre présence à toutes et à tous, parce que la salle du Palladium, elle est assez triste. Alors il faut, avec la musique et notre présence, qu'on remplisse l'espace de solidarité.
Voilà, on a voulu faire une grande salle, et puis on espère qu'on n'a pas prise trop grande, et qu'il y aura du monde.
Voilà. Alors, Suzanne, merci. Je te laisse affronter la neige pour redescendre en ville. Je sais que tu es pressée. Alors, merci d'être venue jusqu'à nous et à tout le monde. Donc, je le répète, samedi 28 novembre, dès 18h, pour des vidéos d'abord, au Palladium à Genève, rue du Stand. Entrée 10 francs ou bien plus, si vous voulez donner bien plus, c'est bien clair. Avec 19h, table ronde sur le thème néolibéralisme, catastrophe et solidarité. Un repas latino magnifique préparé par les femmes caraguayennes, nicaraguayennes et honduriennes et espagnoles, etc. 21h30, Michel Buller et Javier Alonso et musique, danse, bal, surprise, jusqu'à pas d'heure dans la nuit.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. playa así desierto montañal y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.